Robillard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.
Bienvenue et bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Le ministre de l'Intérieur a défendu hier les forces de l'ordre en commission parlementaire, affirmant qu'il n'y a pas de divorce entre la police et la population. Est-ce que vous partagez son constat ?
Moi, je crois qu'il y a eu des interrogations ces derniers temps, mais les Français sont à la fois attachés aux forces de l'ordre, attachés au fait qu'il y ait de la sécurité. Et en même temps, ils voudraient que ces policiers puissent, dans leur entièreté, se comporter normalement et pas voir les images qu'on a eues la semaine dernière, qui sont le fait de quelques-uns, on le sait.
Donc, de quelques-uns, ce n'est donc pas systémique,
il y a structurel. Il y a un sujet. Hier, le ministre de l'Intérieur, il a mis le doigt sur tout un tas de revendications que les policiers CFDT, par exemple, portent depuis longtemps, c'est-à-dire la durée de la formation, l'encadrement lors des opérations, la question du matériel. Et donc, il y a tout un tas de questions autour de ça qu'il faut revoir. C'est-à-dire que, je crois que c'est à l'État d'assumer une vraie formation, un vrai accompagnement des policiers.
Mais on a failli sur ce domaine-là. Ce sont les 7 péchés capitaux déclinés hier par le ministre de l'Intérieur.
Je sais pas s'il faut parler de
7
péchés capitaux, mais oui, on a failli. Mais on a failli, vous savez, comme sur beaucoup de secteurs de l'action publique. Monsieur Darmanin était ministre du budget, il sait ça parfaitement. On a bien vu aussi après le mars-avril qu'on avait failli sur l'hôpital, ça, on le disait depuis longtemps. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait aussi des gouvernements qui écoutent les professionnels des secteurs concernés dans les fonctions publiques. Ça fait longtemps que les policiers CFDT parlent de formation, d'accompagnement, de matériel, d'encadrement. Donc voilà, faisons ça et en même temps, soyons très clairs sur le rôle de la police, sur le comportement, sur l'éthique de responsabilité qui doit être celle de la police, et ayons aussi des acteurs, et je pense notamment aux préfets, qui soient très clairs sur, évidemment, le maintien de l'ordre, la sécurité, mais aussi très clairs sur la responsabilité des policiers dans l'opération.
Vous revenez à chaque fois sur le préfet Lemblin, vous pensez vraiment que c'est le point de crispation ? Le problème est que s'il partait, eh bien on va résoudre tous les sujets.
Je dis simplement qu'il faut que chacun assume ses responsabilités. Et la doctrine du maintien de l'ordre à Paris depuis plusieurs années maintenant pose question, je le dis, parce que ça privilégie l'affrontement au lieu de privilégier le maintien de l'ordre.
Et pourquoi il y a affrontement ? Parce que c'est vrai, Laurent Berger, qu'on est étonné que cette violence devient systématique à chaque manifestation. Certains disent qu'il y a un laisser-faire en marge des manifestations à la fin. C'est le cas ?
Je ne sais pas s'il y a un laisser-faire. Ce qui est sûr, parce que vous savez bien que à la fin des manifestations, en principe, les gens raisonnables sont partis. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui ont intérêt au chaos. Ces fameux black blocs dont on ne sait pas toujours qui ils sont.
Vraiment, on ne le sait pas ?
En tout cas, moi, je ne le sais pas. Ce que je peux vous assurer, c'est que ce n'est pas des militants de la CFDT. Ces fameux black blocs qui entraînent de la violence inacceptable. Ils se sont attaqués samedi à une mutuelle, comme si c'était le suppôt capitaliste. Ils se sont attaqués à la Banque de France, à une agence de la Banque de France qui traite les questions de surendettement, donc les ménages les plus modestes. Ils se sont attaqués de façon scandaleuse à un policier à terre pour le frapper avec des images extrêmement choquantes. Donc oui, il y a des gens qui ont intérêt au chaos. Mais vous savez, le rôle d'un État, c'est d'assumer ses responsabilités en éthique, en responsabilité, je veux dire, et donc pas de répondre violence pour violence.
Oui, mais est-ce qu'il y a autant d'émotions, d'indignation quand des policiers, des gendarmes sont pris pour cible, quand des commissariats sont régulièrement attaqués au mortier ? Est-ce qu'on s'indigne de cela ?
Oui, je crois, oui. Oui. Moi, tous. En tout cas, ce qui me concerne, je peux vous dire que les images qui ont visé un policier samedi sont extrêmement choquantes et insupportables, tout comme l'agression de M. Zecler l'était, est absolument insupportable et choquante, et je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. Il faut condamner les deux très fermement et agir en justice à l'égard des coupables dans les deux cas.
Mais Laurent Berger, qui protège les policiers ? Le fameux article 24 de la proposition de loi de sécurité globale va être totalement réécrit, mais pas supprimé ? Bon, il est retiré en réalité ?
Oui, il est retiré, évidemment,
vous, il est retiré,
tout le monde le comprend. Il est retiré et on a envie de dire tout ça pour ça. Tout simplement parce que dès le début, on avait dit que la protection des agents publics dans l'exercice de ses fonctions, de leurs fonctions, et notamment les policiers, n'est pas incompatible avec la liberté de la presse. Et si on avait écouté ça dès le départ, on n'aurait pas traité les choses comme ça. Donc, il faut la liberté de la presse pleine et entière. On a bien vu la semaine dernière que si on pouvait pas filmer, on avait quand même moins de capacité à lutter contre les dérapages de certains. Il faut aussi protéger les policiers dans l'exercice de leurs fonctions, comme protéger l'ensemble des agents publics. Vous savez, la semaine dernière, moi, j'ai rencontré des fonctionnaires qui n'étaient pas de la police, qui disaient qu'il y avait une montée de l'incivilité. C'est une réalité. Donc, il faut agir protéger les agents publics.
Incivilité, c'est un euphémisme parfois. C'est doux
c'est
quand on voit ce qui se passe.
C'est comme ça qu'il l'exprimait. Oui. Mais il faut évidemment protéger les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions. Mais ça ne se fait pas contre la liberté de la presse. Donc cet article 24, c'est un mauvais épisode, franchement, qui est pitoyable. Je le dis comme je le pense. Maintenant, voyons comment ça va évoluer et essayons de nous concentrer sur les vrais sujets aussi, les vrais sujets qui sont les questions économiques, sociales.
Sociales, justement, on a un climat pour le moins tendu. Est-ce que dans ce contexte, et pour rembourser la dette du Covid, il faut parler, comme l'a fait le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, de la réforme des retraites qui doit être une priorité absolue? Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin?
Mais je lui dis que la priorité du moment, c'est la relance économique, c'est la cohésion sociale, c'est la question de l'emploi, c'est la question du chômage.
Il le sait, il est quand même honnête.
Bien sûr, il faut se concentrer là-dessus. La relance économique, elle doit se faire en investissant sur les bons leviers, c'est-à-dire en investissant dans la transition écologique, en investissant dans les secteurs qui sont aujourd'hui les plus en difficulté, qu'il faut soutenir, en faisant en sorte qu'on fasse évoluer les compétences des salariés. Et la question des retraites, elle est complètement inappropriée aujourd'hui.
Pourquoi elle est inappropriée?
Tout simplement, d'abord parce qu'on n'a pas l'entièreté, on parle de la dette, on est encore dans ce moment où on investit pour essayer à la fois d'avoir des mesures d'urgence et investir dans l'avenir. C'est pas une mauvaise chose d'investir dans l'avenir, il faut absolument le faire. Et on n'a pas la mesure de tout ce que cette crise du Covid a produit sur les systèmes sociaux, notamment sur le système de retraite. Mm-hmm. Donc on ne va pas commencer à faire une réforme des retraites, on n'aura pas forcément le bon diagnostic. Deuxième élément, je crois qu'on a suffisamment de conflictualité, suffisamment de difficultés, de tensions dans notre pays pour ne pas s'en rajouter.
Clairement,
en
quel
mettant
est le risque si on remet sur l'ouvrage
un conflit social, je vous le dis très clairement, Madame Mabrouk. Si le gouvernement, au printemps, vient avec une réforme paramétrique des retraites, c'est-à-dire une gestion financière de la question des retraites, en voulant allonger la durée de travail, durée de cotisation, je ne sais quoi, la CFDT s'y opposera fermement.
Très bien, je vous ai entendu, mais si elle enlève cet aspect budgétaire et si elle vient avec une réforme de justice sociale, que répondrait le secrétaire général de la CFDT?
On n'a pas tout simplement, vous savez que la CFDT est attachée à un système universel des retraites, on n'a pas aujourd'hui le temps d'y travailler sereinement pour que ça se passe sans tension. Et donc, cette question-là, pour travailler sur le fond d'un système universel des retraites, on peut continuer à y réfléchir, il n'y a pas de sujet. Là-dessus, pour nous, il n'y a pas de problème. Mais si, comme c'était plutôt l'orientation prise par M. Le Maire, c'est une question de réforme financière des retraites, la réponse est non pour la CFDT.
Donc aucun
clairement
projet
non.
de réforme de retraite sur la table.
Oui, d'ici la présidentielle, soyons clairs,
pas
il n'y a pas de possibilité,
donc,
sauf à vouloir une explosion sociale.
Mais alors expliquez-nous, Laurent Berger, comment rembourser la dette du Covid, si pour vous il faut la rembourser, sans augmenter les impôts et sans réforme structurelle?
D'abord, il faut traiter les questions quand elles se posent. Notre pays a cette capacité à poser les questions trop tôt. Non, mais je le dis, c'est clairement aujourd'hui.
La dette, c'est
il faut,
trop tôt, oui.
Il faut faire quoi? Oui, il fallait des mesures d'urgence. Ce que le gouvernement a fait pour soutenir l'économie, pour soutenir les travailleurs et l'emploi, pour apprendre des mesures d'urgence pour les publics les plus en difficulté. On aurait pu faire mieux, on aurait pu faire autrement, n'empêche que ça a été fait. Et puis, après, il faut s'endetter pour investir. Je rappelle que le taux d'intérêt sont extrêmement bas. Que l'investissement dans
l'action... Pourvu qu'il le reste.
Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, ils sont bas. Que l'investissement dans l'action publique est absolument nécessaire.
Oui.
Que l'investissement pour s'inscrire à
la
transition écologique...
Mais demain, après-demain, vous ne pensez pas à la dette
de la relance.
Vous ne pensez pas
à
vos petits-enfants, aux prochaines générations?
Mais si on investit. Madame Mabrouk, si on investit dans la transition écologique, c'est comme ça qu'on pense à nos petits-enfants. Si on investit dans une action publique qui accompagne les parcours de vie des citoyens, si on investit dans de l'économie durable, dans la biodiversité, dans le respect de la biodiversité. Non, mais c'est de
on
ça dont il s'agit.
On n'a pas fini de la rembourser, la dette.
Mais si, on pourra, on peut la cantonner. Il faut un remboursement à long terme.
Il faut la rembourser vraiment?
Oui, je crois. Ouais. Sinon, si on annonce aujourd'hui qu'on ne peut pas la rembourser, vous savez que je suis président de la Confédération européenne des syndicats, ce qui se passera, c'est qu'un certain pays du Nord, de nos partenaires européens, nous taxeront de légèreté et on aura un problème de crédibilité de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Donc il faudra la rembourser, mais on peut le faire sur un très long terme et on peut cantonner cette dette Covid qui a concerné l'ensemble des pays européens et l'ensemble des pays dans le monde.
On va conclure sur un sujet important qui nous concerne tous, Laurent Berger. Vous avez conclu d'ailleurs quasi unanimement un compromis sur le télétravail entre partenaires sociaux. Comment vous le qualifiez cet accord ?
D'intéressant pour donner un cadre dans les entreprises pour dialoguer pour avoir des négociations sur la mise en place du télétravail. Je crois qu'ils donnent les bons cadres, les bons repères. Et je suis très satisfait qu'on ait réussi à trouver ce compromis très très large, parce qu'on avait beaucoup d'attentes de la part des salariés, parce que le télétravail est une vraie réalité, aujourd'hui une réalité d'urgence, j'ai envie de dire, demain une vraie réalité qui s'installera dans le monde du travail.
Demain. Donc vous pensez déjà à le pérenniser,
bien sûr, cet accord,
un autre accord.
Il parle du télétravail en période d'urgence, comme on est aujourd'hui, mais il parle aussi du télétravail de façon pérenne, et je crois qu'on aura besoin de le cadrer sur la réversibilité, sur le volontariat, sur l'éligibilité des postes, sur la charge de travail, le management, les dépenses à prendre en compte. Et donc ça se passera dans les négociations dans les entreprises, et cet accord, il cadre bien les choses.
Donc il y a un vrai dialogue social aussi, puisqu'on parle de climat social.
Oui, je crois qu'il faut se réjouir.
Il faut
se réjouir dans un moment, la semaine dernière, on a eu l'impression que tout le monde se mettait sur la figure, que les organisations syndicales et patronales aient trouvé un compromis sur le télétravail.
Merci Laurent Berger d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.